Décryptage, Guillaume Ouattara.
Hier, deux événements dramatiques ont ravivé une angoisse sourde, celle d'une école cible des violences. En France, d'abord à Nogent, en Haute-Marne, une surveillante a été poignardée par un élève de 14 ans à la porte du collège. Le même jour, en Autriche, à Graz, un adolescent ouvre le feu dans son établissement. Il tue 10 personnes, dont un jeune Français. Deux drames, deux contextes, mais une même sidération, celle de voir l'école frappée en son cœur. Alors la violence à l'école ne se résume pas aux coups et aux cris, elle prend mille visages, de l'insulte au harcèlement, de la baston au meurtre. Quelques chiffres pour prendre la mesure du phénomène. En 2022-2023, on recensait 13,7 incidents graves pour 1000 élèves, contre environ 11 pour 1000 au début des années 2010. Et quand on parle d'incidents graves, 77% d'entre eux, ce sont des insultes, des menaces, du harcèlement et des violences physiques. Enfin, tout niveau confondu, plus de 600 000 enfants sont harcelés chaque année. Alors ce soir, on se questionne sur RFI. Quelle réponse face à la violence à l'école ? Et pour décrypter ces violences scolaires, deux experts. D'abord vous, Claude Lelièvre, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien de l'éducation, vous avez beaucoup travaillé, écrit sur ces questions de la violence. Et puis nous sommes également avec Elian Potier. Bonsoir Elian.
Bonsoir.
Vous êtes co-président de l'association Faire Face, engagée depuis des années dans la lutte contre le harcèlement scolaire. Claude Lelièvre, je le disais il y a quelques instants, en une journée, deux drames à des centaines de kilomètres l'un de l'autre. Et des morts. Alors ma première question, elle est simple. Est-ce qu'aujourd'hui, l'école est toujours un sanctuaire ?
C'est difficile à dire parce que je pense que pour l'immense majorité des enseignants et puis des élèves, en réalité, on peut dire que pour l'essentiel, elle est un sanctuaire au sens où elle est un lieu où on apprend, on enseigne à peu près normalement. Alors qu'il y ait des endroits ou des circonstances où manifestement ce n'est pas le cas, c'est évident. Le problème, c'est qu'en tant qu'historien, moi j'ai des doutes sur le fait qu'elle n'ait jamais été totalement un sanctuaire. Ça, c'est une vision rétrospective, c'est peut-être une vision tout à fait positive, mais disons que j'ai des doutes, même dans les endroits les plus privilégiés, même par exemple sous l'Ancien Régime, ben, vous pouviez avoir des meurtres tout simplement. Hein.
Dans les écoles.
Dans les écoles, par exemple, dans un collège de Beauvais, en 1778, il y a un gamin de 13 ans qui était au collège, qui tue un enfant d'aristocrate de 17 ans d'un coup de couteau. Donc il ne faut pas croire que ce genre de choses, qui est exceptionnel, et qui a toujours été exceptionnel, qui reste exceptionnel, parce que nous ne sommes pas du tout dans la configuration, par exemple, qui se passe aux États-Unis. Voilà, alors, comme c'est dramatique, comme c'est exceptionnel, on en parle beaucoup, et on a raison d'en parler, mais l'essentiel n'est pas là.
Alors, il est où l'essentiel pour vous ?
Il est dans le fonctionnement ordinaire des établissements scolaires, à distinguer le primaire et le secondaire. Il ne faut pas oublier que la massification du secondaire a fait qu'un tas de jeunes, dans une génération, eh bien maintenant sont généralement à l'école jusqu'à 18 ans, ce qui n'était pas le cas il y a 30 ou 40 ans. Donc nous avons à faire face à disons, des problèmes qui tiennent aussi au fait que, au fond, l'âge de scolarisation ça a été étendu pour la masse des gens, alors que ce n'était pas le cas du tout il y a 30 ou 40 ans. Nous avons beaucoup d'adolescents, au fond, qui doivent être ensemble, respecter des règles communes, alors même que notre école ne fonctionne pas de façon commune. Moi, ce qui me frappe, si vous voulez, dans la question des violences, c'est une étude qui avait été faite aux États-Unis auprès au moins d'une centaine d'établissements, il y a une vingtaine d'années, qui montrait que les établissements où il y a collaboration effective entre l'administration et les enseignants, qui arrive à ce qu'il y ait des règles communes, qu'elles soient respectées par les enseignants, par l'administration et par les élèves, ont beaucoup moins de désordre, beaucoup moins de violence, moitié moins, que celle où on fait confiance au chacun pour soi et chacun chez soi. En France, on a une tendance où chacun chez soi.
On va y revenir justement sur ces solutions qui existent. Avant ça, Élian Potier, il y a quelque chose qui heurte, qui choque, il faut le dire, dans cette histoire, dans cette terrible affaire de nos gens. C'est le profil de cet élève tueur. Bon élève, parpéré, apprécié, intégré. Comment on peut comprendre des passages à l'acte, qu'ils soient très violents comme celui-là ou qu'ils soient de l'ordre du harcèlement ordinaire? Qu'est-ce qui fait, vous qui êtes beaucoup dans les établissements scolaires, qu'un élève peut basculer du côté de la violence?
Alors c'est compliqué à répondre parce que ce genre de situation ne peut jamais être justifiable. En revanche, moi, ce que je constate dans les établissements, c'est qu'effectivement, les faits de violence apparaissent malheureusement de plus en plus, que ce soit à l'école, mais aussi à l'extérieur. Je pense notamment aux réseaux sociaux. Moi, ce dont je peux le plus répondre, c'est sur la thématique du harcèlement. Et malheureusement, on voit de plus en plus de situations de cyberharcèlement, donc de situations qui émergent des réseaux sociaux et qui ont un impact malheureusement sur le bon fonctionnement de l'école, parce que règlement de compte dans la cour de récréation, parce que ceci, parce que cela, et que de plus en plus de jeunes sont aussi sur les réseaux sociaux maintenant. Donc ça pose un véritable problème, je pense, dans la construction d'un jeune. Moi, je pense que ce qui pourrait peut-être aider, ou du moins ce qui pourrait aider aujourd'hui à avancer, ça serait la consultation d'un psychologue, je pense, de manière obligatoire pour tous les jeunes aujourd'hui, parce qu'on se rend compte que la santé mentale, et on le voit, est au cœur de l'actualité aujourd'hui, et je pense qu'on ne peut plus faire machine arrière, on ne peut pas oublier et ne pas penser à ce genre de choses, et je pense qu'aujourd'hui, cette problématique-là doit être soulevée vraiment pour tous les jeunes. Vous avez parlé de 600 à 1 million d'enfants victimes de harcèlement chaque année. On pense à un enfant sur 10 chaque année, c'est énorme, ça montre que ça peut toucher n'importe où et n'importe qui, et qu'il faut réellement s'emparer du sujet pour éviter justement que ce genre de situation puisse apparaître.
Vous parlez, Élian Potier, des réseaux sociaux. Emmanuel Macron a dit aujourd'hui qu'ils sont porteurs d'épidémies de violence qu'il faut absolument réguler. Et ils proposent leur interdiction pour les moins de 15 ans. Vous y êtes favorable à cette proposition ?
Tout à fait, et encore moins de 15 ans, c'est gentil, parce que en allant dans les établissements pratiquement tous les jours, je peux vous dire, je vous donne un exemple concret, que dans les établissements scolaires, en particulier primaires que je rencontre, quasiment tous les élèves de CE2 que je rencontre ont déjà un téléphone portable aujourd'hui. Ça montre qu'il y a réellement un impact, il y a réellement une situation qui est à prendre à bras le corps aujourd'hui pour pouvoir éradiquer ce fléau. Et on parle du cyberharcèlement, mais aujourd'hui, un jeune qui a un téléphone portable en CE2, en CM1, en CM2 ne doit pas en avoir. Et je vous parle pas d'un téléphone à touche. Aujourd'hui, je vous parle d'un smartphone, un téléphone tactile, un accès à Internet, des réseaux sociaux. Quasiment 100% des jeunes que moi, je rencontre en CE2, typiquement, ont déjà tous à 100%, on va dire, allez, 99% pour la forme, des jeunes qui ont déjà à l'application Snap, typiquement. Donc, ça montre qu'aujourd'hui, il y a évidemment, je pense, l'investissement des parents sur ce niveau-là, mais je pense qu'il y a réellement un effort à faire, un accompagnement et surtout une sensibilisation à destination des parents pour leur montrer les effets aussi néfastes que peuvent avoir les réseaux sociaux.
Claude Lelièvre, je rappelle que vous êtes historien de l'éducation. Plusieurs chefs d'établissement parlent d'un effritement de l'autorité adulte qui ne serait plus soutenu par les familles ni par l'institution. C'en est fini du professeur comme hussard noir de la République, du professeur respecté socialement. On en est loin aujourd'hui.
Oui, alors ça, sûrement que les professeurs du secondaire étaient plus respectés que maintenant, parce que d'une certaine manière, ils s'adressaient à une élite qui avait intériorisé un certain nombre de cultures, de règles et, disons, d'orientation. Donc, c'est plus difficile avec les ados de maintenant. Cela dit, on n'est pas à feu et à sang non plus. Enfin, je veux dire qu'il y a des difficultés. Je pense qu'il faut aller du côté le plus collectif possible, le plus diversifié. Par exemple, d'une certaine manière, dans nos établissements scolaires, la question discipline et autorité, elle est plutôt du côté de spécialistes, c'est-à-dire de l'administration, des CPE, etc., alors que dans d'autres écoles, elle est directement des enseignants. Donc, il y a une sorte de jeu de l'union entre les enseignants et l'administration, qui a le rôle de l'autorité en définitive, qui doit faire de la discipline, qui doit faire quoi. Et on perd de vue généralement que c'est l'ensemble des personnels qui sont éventuellement pas assez nombreux et pas assez diversifiés. De ce point de vue-là, je suis d'accord sur sur le fait que la médecine, les infirmières, les psys devraient être plus là. Mais il ne faut pas, en gros, on est toujours dans le cadre de substituer une solution à une autre. Alors la tendance, elle est soit à l'idée répressive, soit maintenant à l'idée de médicalisation, soit on dit qu'il faut séparer. Et moi, je suis tout à fait sceptique sur les solutions unilatérales proclamées. Par exemple, on dit qu'on va supprimer l'accès aux réseaux sociaux. Mais d'une certaine manière, déjà, pour ceux qui ont 11-12 ans, normalement, elle est interdite. Eh bien, on voit bien, d'ailleurs, dans notre interlocuteur, que ce n'est pas du tout le cas. Donc, entre des professions de foi et puis ce qu'on peut faire, moi, je pense qu'il faut aller du côté pragmatique, pluralisme, collectif, et pas balancer des grandes professions de foi unilatérales.
Vous parlez du rôle des enseignants, pardon Élian Potier, question pour vous Claude Lelièvre, vous parlez du rôle des enseignants. Est-ce qu'ils sont suffisamment formés à ces enjeux? Et même de manière générale, est-ce que nos profs sont bien formés en France?
De façon générale, ils sont peut-être pas suffisamment formés en ce qui concerne les questions didactiques et pédagogiques, mais ils sont encore moins formés aux questions éducatives et disciplinaires. Quand j'avais fait mon livre sur l'histoire vraie des écoles, l'histoire vraie des violences à l'école, j'avais signalé que, par exemple, les hôtesses de l'air sont formées à gérer les situations de violence, d'indiscipline, si on peut dire, et les enseignants, non. Ou alors, ils ont un certain nombre de cours, mais peu de pratiques. Donc, les dimensions, en particulier dans le secondaire, les dimensions sont essentiellement de type disciplinaire, au sens des disciplines d'instruction. On est d'abord géographe, on est d'abord historien, on est d'abord philosophe, mais finalement, les rôles éducatifs et les rôles disciplinaires sont finalement considérés comme secondaires. Et c'est bien à tort, parce que c'est ce qui permet de grandir aux adolescents.
Élian Potier, je le rappelle, vous êtes coprésident de l'association Faire Face. Vous allez tous les jours, toutes les semaines, dans des établissements scolaires, de la maternelle, de la primaire jusqu'au lycée, parfois dans le supérieur, pour parler de harcèlement scolaire, pour parler de cette forme de violence qui est très répandue. Mais vous êtes bien seul, vous ne pouvez pas couvrir tous les établissements. Est-ce qu'aujourd'hui, on a suffisamment de dispositifs qui sont en place pour lutter contre le harcèlement et contre les violences? Ou est-ce qu'aujourd'hui, vous faites le constat d'un manque de moyens?
Alors, je pense qu'aujourd'hui, le sujet du harcèlement est de plus en plus traité, parce qu'aujourd'hui, vous avez la formation à destination des adultes de l'éducation nationale qui, eux, apprennent à pouvoir sensibiliser leurs jeunes à cette thématique. Vous avez le fameux programme phare qui oblige chaque établissement à pouvoir faire des cours de sensibilisation au minimum 10 heures par an sur cette même thématique aux jeunes. Moi, cependant, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, évidemment, ce sujet est traité de plus en plus. Vous dire que tout est parfait, ce sera un mensonge, évidemment que non. Et lorsqu'on verra un jeune qui mettra fin à ses jours parce qu'il est victime de harcèlement, c'est qu'il manque quelque chose et c'est qu'on n'a pas totalement réussi. En revanche, moi, ce que je peux constater, c'est que aujourd'hui, l'investissement des parents, sans mettre tout le monde évidemment dans le même panier, n'est pas forcément toujours là, toujours présent. Je vous donne un exemple sur des sensibilisations en fin de journée à destination des parents sur la thématique du harcèlement et aussi du cyberharcèlement. Malheureusement, vous avez peu de parents qui sont présents. Pas forcément que sur cette thématique, hein, sur bien d'autres thématiques, mais ça montre quand même qu'aujourd'hui, faire venir les parents et leur demander de s'investir aussi sur ces thématiques-là est assez compliqué. Alors, je comprends qu'il y a une problématique parfois d'emploi du temps, de tout ça, mais sur des établissements de 1500 élèves, en avoir 3 ou 10 grand maximum qui sont présents, ça montre une réelle problématique, surtout sur ce sujet qui est d'actualité. On en parle de plus en plus, et malheureusement, dans l'actualité, on en voit également assez souvent. Donc ça montre que je pense qu'aujourd'hui, là où on manque vraiment de moyens typiquement humains, ça serait à destination des parents et évidemment de pouvoir accentuer la sensibilisation sur les réseaux sociaux. Je pense que si on peut retenir deux chantiers, c'est la sensibilisation à destination des parents, pour ma part, hein, et la sensibilisation sur la thématique des réseaux sociaux.
19h24 en temps universel sur RFI. On parle dans Décryptage des réponses face à la violence à l'école. Après deux drames survenus hier, le meurtre d'une assistante d'éducation, c'était à Nogent, et puis une tuerie en Autriche perpétrée par un lycéen. Claude Lelièvre, on fait ce constat d'une violence. Alors vous dites qu'elle n'est pas forcément en hausse par rapport à ce qui a pu se passer dans les années précédentes, que peut-être ce qui a changé, c'est la massification, la présence des réseaux sociaux qui permettent de documenter tout ce qui se passe dans une salle de classe. On voit régulièrement, et vous avez d'ailleurs peut-être déjà vu passer ces vidéos sur les réseaux sociaux de violences ordinaires, des scènes où on voit un jeune insulter son enseignant, jeter une chaise dans la classe, et tout ça est partagé sur Snapchat, sur TikTok, sur Instagram. Une surenchère de la bêtise, c'est ce qu'on avait vu aussi au moment des émeutes pour la mort de Naël. Est-ce que selon vous, Lelièvre, ces réseaux sociaux, d'une certaine façon, vont abrutir les jeunes et les pousser à la violence ?
Je pense qu'ils ont un rôle. C'est justement, à mon avis, c'est la grande nouveauté de notre situation. C'est le rôle des réseaux sociaux dans la formation, si l'on peut dire, de nos adolescents, puisque au fond, c'est quand même essentiellement les adolescents, même si ça débute à la fin de l'enfance. Et c'est vrai que c'est un souci. Alors, je ne sais pas s'il faut interdire ou pas. Je pense qu'il faudrait arriver à ce qu'on ait, non pas une interdiction totale, mais une pression forte sur ces réseaux sociaux, de façon à ce qu'il y ait vraiment une maîtrise par les adultes de ces réseaux sociaux. Parce que je suis sceptique sur les interdits totaux, surtout auprès d'ados. Ils arriveront toujours à contourner, parce que d'une part, ils s'y connaissent en technologie de ce genre, et puis aussi parce que c'est, quand on grandit, quand on est ado, de toute façon, on a des phases d'opposition, on a des phases de contournement. D'une certaine manière, on devient quelqu'un en s'opposant d'une certaine manière. Donc, c'est l'interdiction pure et simple me paraît peu faisable et peut-être même pas souhaitable. Mais en revanche, la question, c'est comment maîtriser ça et comment maîtriser ça en collaboration, si possible, avec les réseaux sociaux. Alors, je sais bien que c'est très difficile puisque, manifestement, ils collaborent peu, mais je ne vois pas comment on peut y arriver autrement.
Et qu'est-ce qu'on fait dans les salles de classe ? Dans le quotidien, dans ces établissements qui sont parfois gangrénés dans la violence. Vous le disiez tout à l'heure, la répression à tout prix, ça ne suffit pas. On renoue le dialogue, on forme mieux, on met plus de profs. Qu'est-ce que vous voyez comme solution ?
Oui, mais je pense que ces différents éléments sont très importants, bien entendu, parce que c'est pas de l'ordre des proclamations, c'est pas de l'ordre des interdits formels et généralisés, c'est comment former des gens à réagir de façon équilibrée, documentée, pratique à des situations diverses, parce qu'en fait les situations sont diverses. Voilà, moi je plaide pour le pragmatisme, pour des formations pratiques et pour, disons, avoir beaucoup de délégués, de délégations, de pouvoir à la base, au niveau des établissements et de façon collective, parce que sans quoi on ne peut pas s'en sortir. Et ça, c'est un changement de cap, hein, parce que si bien au niveau de la formation, parce que ça, c'est des sphères qui sont généralement négligées au secondaire, et puis d'autre part, parce qu'ils ont peu valorisé, et pourtant ils sont essentiels, et puis d'autre part, parce que, au fond, si vous prenez un ado, son problème, c'est quand même d'arriver à arrêter à obéir à quelqu'un pour éventuellement arriver à se régler et à se régler sur des règles collectives. Autrement, nous avons affaire automatiquement à un conflit de volonté, à un conflit qui n'est pas bon. Donc il faut qu'il y ait des intermédiaires, des médiations.
Élian Potier, en un mot, parce qu'il nous reste vraiment très peu de temps, est-ce qu'on va quand même dans le bon sens ? Est-ce que les solutions qui existent, qui sont déployées, que vous mettez sur le terrain, sur le harcèlement, vont pouvoir améliorer la situation ? En un mot.
Moi, je pense que c'est de manière collective et si tout le monde va dans le bon sens, c'est-à-dire si on avance avec tout le monde, avec l'équipe éducative, les parents, la famille et évidemment les associations, je pense que je suis certain qu'on arrivera à une amélioration sur cette problématique qui est le harcèlement à l'école. Mais pour ça, il faut tout le monde. Mais je garde espoir parce que sinon, ça sert à rien. Donc on garde espoir et on continue d'intervenir dans les établissements.
Faire face, c'est le nom de l'association dont vous êtes le coprésident, Élian Potier. Merci d'avoir été avec nous ce soir. vous êtes engagé depuis des années dans la lutte contre le harcèlement scolaire. Merci également Claude Lelièvre, historien de l'éducation, une parole précieuse et précise ce soir pour décrypter ce phénomène des violences scolaires. Vous avez de nombreux ouvrages de Claude Lelièvre qui sont disponibles pour aller plus loin.